Le MAG de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement. Une émission en partenariat avec les ministères de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires sur Radio Territoria.
Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission du MAG de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement sur Radio Territoria. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro que nous allons consacrer à la réforme des attributions des logements locatifs sociaux. Pour en parler, je suis accompagnée par François-Xavier Chopin, chef du bureau de la réglementation des attributions des logements sociaux et du suivi du droit au logement opposable. François-Xavier Chopin, bonjour.
Bonjour à
Bienvenue
tous.
Bienvenue sur ce plateau. Vous travaillez au sein de la direction chargée des politiques du logement à la DGALN, au ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. Et le pilier de cette émission, Michel Phélèpe, chef de la mission mobilisation des territoires à la DGALN, donc la direction chargée de l'habitat, de l'urbanisme, des ministères en charge de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Bonjour Michel.
Bonjour Fabienne.
Et vous nous ferez le plaisir de relayer tout à l'heure pour nos invités, pour notre invité, les questions qui auront été posées dans le chat de l'émission. Ravie de vous accueillir dans le MAG de l'urbanisme.
Le MAG de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement, la thématique du MAG.
La loi relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et qui porte diverses mesures de simplification de l'action publique locale du 21 février dernier, en abrégé la loi 3DS, porte parmi d'autres des mesures qui concernent les politiques publiques du logement. Le 17 mai dernier, nous avions vu l'adaptation par cette loi de l'article 55 de la loi SRU qui impose à certaines communes un taux minimal de logements sociaux. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site de Radio Territoria. Et ce matin avec nos invités, nous allons voir les autres mesures de la loi 3DS qui contribuent également aux objectifs de mixité sociale. Nous allons en particulier nous intéresser aux attributions des logements sociaux. Quel sujet, hein ? C'est un enjeu puisque ce sont 2 200 000 demandeurs de logements sociaux qui existent en France, il faut le rappeler. Plus précisément, on va focaliser sur la mise en œuvre des objectifs de mixité sociale dans les attributions des logements sociaux. Alors François-Xavier Chopin, je me tourne vers vous. Avant d'entrer dans le détail des mesures, est-ce que vous pourriez définir les enjeux autour de ce sujet ?
La France compte 5,1 millions de logements sociaux pour plus de 11 millions de locataires. La politique du logement doit favoriser une offre de logement qui, par son importance, son insertion urbaine, sa diversité de statuts d'occupation et de répartition spatiale, est de nature à assurer la liberté de choix du mode d'habitation pour toute personne. On l'oublie souvent, plus de 72% de la population est éligible au logement social. C'est la vocation généraliste du logement social, il est à destination des ménages défavorisés comme des jeunes cadres. Mais ce parc n'est pas uniforme s'agissant de son occupation. Un logement social sur trois se situe dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, les QPV, les quartiers qui ont été définis au terme d'un travail de l'INSEE comme ceux qui concentrent les personnes de ressources modestes. Alors ces dernières années, plusieurs lois, Allure en 2014, Égalité et citoyenneté en 2017, Élan en 2018 et 3DS donc en 2022, sont intervenues pour réformer en profondeur le système des attributions de logements sociaux. En parallèle du renforcement des obligations de logement des ménages défavorisés, pour tous les grands réservataires et les bailleurs sociaux, le législateur a mis l'accent sur des objectifs de territorialisation des attributions afin de ne plus reproduire les mêmes schémas de peuplement ne concentrant plus la pauvreté aux mêmes endroits.
Alors, c'est curieux parce que la mixité sociale, tout le monde en parle, mais finalement, elle n'est définie nulle part en tant que telle.
Alors, c'est vrai. En revanche, la loi définit des indicateurs stricts vis-à-vis des ménages les plus pauvres. Et s'il faut se donner les moyens collectivement de respecter ces indicateurs, il faut aussi s'assurer que la surconcentration de pauvreté n'amène pas des ruptures du pacte républicain. C'est la raison pour laquelle ont été créés deux types d'indicateurs pour assurer une bonne répartition territoriale des ménages aisés et moins aisés. Alors, il y a tout d'abord le dispositif de la loi SRU que vous avez évoqué en introduction, et puis ceux de la loi Égalité-Citoyenneté que j'ai cité, puisque depuis la loi Égalité-Citoyenneté, sur les territoires de la réforme des attributions, soit plus de 400 EPCI, 25% des attributions annuelles de logements sociaux en dehors des QPV, les quartiers prioritaires de la politique de la ville, suivis de Beaux-Signés, donc obligation de résultat, sont au bénéfice des ménages les plus modestes, ceux qui appartiennent au premier quartier de ressources. Et dans l'autre sens, au moins 50% des attributions en QPV sont au bénéfice des autres ménages. Puis un autre sujet aussi, il faut s'assurer que les populations qui font vivre un territoire pourront y habiter. C'est notamment la notion nouvelle de travailleur essentiel dont on parlera sans doute tout à l'heure.
Alors, une des dispositions phares concerne le pouvoir de notification des objectifs d'attribution des ménages du premier quartile aux bailleurs sociaux par les PCI. Tout d'abord, le PCI. Alors tout d'abord, d'où vient cette disposition? Pourquoi?
Les EPCI, qui sont tenus de se doter d'un programme local de l'habitat, le PLH, ou ayant la compétence habitat et au moins un QPV, ont été consacrés par les lois successives comme les responsables de la mise en œuvre de la politique de l'habitat sur leur territoire. Avec l'intercommunalité, on place les communes au centre de la politique des attributions et des projets de territoire. Alors la définition de cette politique s'appuie sur un cadre partenarial, évidemment, la conférence intercommunale du logement. Cette instance réunit le PCI, les communes, l'État, les bailleurs sociaux, les réservataires et les associations. Plus important, la CIL, donc la conférence, est un lieu de concertation entre les partenaires pour définir les orientations d'une politique d'attribution ou de peuplement. Ces orientations doivent ensuite être traduites dans un document contractuel, la convention intercommunale d'attribution, qui comporte les engagements contractuels des bailleurs et réservataires en matière à la fois de logement des personnes les plus défavorisées et en matière de mixité et d'équilibre territorial.
Quels sont les résultats de la mise en place de cette gouvernance précisément?
Eh bien, les résultats pourraient être meilleurs. À fin mai dernier, on dénombre 74% des EPCI qui ont mis en place une conférence intercommunale du logement. Mais seulement 38% d'entre eux ont signé une convention intercommunale d'attribution. Alors que ces dispositions remontent à la loi Égalité-Citoyenneté du 27 janvier 2017. Plus de 5 ans ont passé, et sur certains territoires, les démarches n'ont pas été engagées. Sur d'autres, qui avaient avancé, la dynamique semble être interrompue. Résultat, alors que l'objectif est que sur ces territoires, ce que je disais tout à l'heure, au moins 25% des attributions annuelles de baux signés sont au bénéfice des ménages les plus modestes en dehors des QPV, depuis 2017, on oscille entre 14 et 17% de taux d'atteinte, et au moins de 10% des EPCI atteignent ce seuil.
Ça reste modeste, d'où, si je comprends bien, les dispositions de la loi 3DS.
Absolument. Une première mesure vise à accélérer la mise en place des CIL et la signature des CIA. Alors, ça peut paraître modeste, et en quelque sorte une forme de constat d'échec des lois précédentes, mais il s'agit de sujets d'une complexité énorme sur des enjeux de société importants avec beaucoup, beaucoup d'acteurs. Et il n'est jamais modeste de se fixer comme objectif de mieux faire travailler les gens ensemble et de convaincre ces mêmes personnes de l'utilité de le faire.
Alors, rappel à la loi. Que dit la loi concrètement?
Concrètement, en l'absence de convention intercommunale dans un délai de 8 mois à compter de la publication de la loi 3DS, ce qui nous envoie au 22 octobre 2022, les EPCI qui sont dans le périmètre de la réforme des attributions au jour de la publication de cette loi, donc c'est 400 EPCI, fixent, après consultation des maires, les objectifs d'attribution correspondant au public prioritaire à la mixité sociale, s'ils n'ont pas de CIA. Et à défaut de notification de ces objectifs dans ce délai de 4 mois, donc ce qui nous enverrait au 22 février 2023, le taux de 25% d'attribution hors QPV, donc c'est ce seul objectif en fait qui est concerné par cette notification, ce taux de 25% d'attribution hors QPV s'appliquerait uniformément à chaque bailleur. Alors bien évidemment, par la suite, les objectifs inscrits dans une CIA se substituent à ces objectifs ou taux. Et juste une précision sur les questions de délai, parce que j'ai parlé des EPCI qui sont déjà dans le périmètre de la réforme des attributions. Pour les EPCI qui entreraient dans le périmètre de la réforme des attributions après la publication de la 3DS, ce délai de 8 mois est reporté à 2 ans pour que les EPCI puissent se doter des instances et des outils nécessaires pour mettre en œuvre ces dispositions.
Alors, j'imagine que l'objectif est d'éviter d'en arriver à ces notifications, voire à la fixation de ce taux de 25% par bailleur par défaut, hein.
Oui, les délais ont été calculés pour que les EPCI, les communes et leurs partenaires se mobilisent, établissent des diagnostics sur la production de logements sociaux, sur les besoins en termes de logements, sur le profil de la demande. mettent en place les CIL pour en discuter partenarialement au sein de cette instance, et puis s'accordent sur des objectifs d'attribution qui soient partagés entre tous les acteurs et correspondent au profil du territoire et tiennent compte par exemple des disparités entre bailleurs. Alors nous sommes fin juin, il ne faut plus tarder.
Alors vous avez parlé d'une première mesure, il y en a donc une seconde.
Oui. Le reporting des bailleurs sociaux, il s'agit du reporting des bailleurs sociaux au préfet sur les attributions en dehors des QPV et l'atteinte de ses objectifs en cas de manquement. Donc, le préfet sera informé par chaque bailleur des attributions hors QPV chaque semestre grâce aux données arrêtées au 30 juin et au 31 décembre qui devront être transmises dans un délai de 15 jours. Un arrêté du ministre du Logement définira les modalités de transmission de ces informations et nous sommes actuellement en train d'y travailler.
Alors, que se passe-t-il en cas de manquement du bailleur à son objectif d'attribution ? Ou bien s'il ne transmet pas tout ou partie des données ?
Alors, le préfet, après avoir évidemment enjoint le bailleur social de l'informer des logements qui se libèrent hors QPV, devra procéder aux attributions jusqu'à atteindre l'objectif assigné au bailleur social sur 12 mois. Ces attributions sont exclues de l'assiette du flux annuel de logements libérés. Et un point important, le préfet qui a compétence liée devra, dans ces conditions, rendre compte en cas de non-atteinte de ses objectifs.
Alors passons maintenant aux travailleurs dits essentiels, puisque la loi comporte des mesures pour faciliter leur accès au logement social, si vous le voulez bien.
La crise sanitaire a mis en lumière un certain nombre de professions indispensables pour maintenir une pulsation vitale à notre économie et à notre vie quotidienne. Ce sont, et la liste n'est pas exhaustive, les infirmières, les éboueurs, les caissiers. Ainsi, pendant qu'une partie des salariés basculaient en télétravail, eux devaient se rendre précisément sur le lieu de travail. Ces professions accèdent bien évidemment déjà pour une partie au logement social, mais le gouvernement a souhaité faciliter leur accès. Alors attention, il ne s'agit pas d'une nouvelle catégorie de public prioritaire. Alors plusieurs scénarios avaient été étudiés, dont celui d'une définition d'une liste exhaustive nationale sur la base des travaux de l'INSEE ou du ministère du Travail. Celui qui a été retenu consiste à ce que sur les territoires de la réforme des attributions, eh bien ce soit la CIA en fait, qui fixe les objectifs d'attribution aux demandeurs de logement social, qui exerce une activité professionnelle qui ne peut être assurée en télétravail. Il revient donc à la CIL, donc aux acteurs locaux, de fixer les modalités de mise en œuvre de cet objectif selon des besoins locaux. Alors pour outiller les acteurs, une information complémentaire sera délivrée sur les catégories de professions. Et j'en profite pour signaler un autre point qui ne résulte pas de la loi 3DS. Mais dans le même ordre d'idée, la loi du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et des sapeurs-pompiers professionnels prévoit que les CIA fixent un objectif d'attribution pour les sapeurs-pompiers volontaires. Alors cette mesure nécessite un décret pour entrer en vigueur.
Alors, une autre disposition qui concourt également à la mixité sociale concerne les résidences dites à enjeu prioritaire de mixité sociale, n'est-ce pas ?
Oui. Aujourd'hui, les objectifs d'attribution dont on a parlé il y a quelques minutes en matière de mixité sociale sont définis par rapport aux quartiers prioritaires de la politique de la ville. Ce sont les objectifs territorialisés. L'idée a été de descendre à une maille plus fine, celle de la résidence. Ainsi, la CIA définit pour chaque bailleur une liste de résidences à enjeu prioritaire de mixité sociale. Cette liste, qui est annexée à la convention intercommunale d'attribution et adressée après actualisation de la liste tous les 3 ans, est établie en fonction des conditions d'occupation de ces résidences. L'identification, et ça c'est un point important, de ces résidences, permettra légalement à une commission d'attribution de logement de prendre une décision de refus d'attribution d'un logement social à un ménage qui serait susceptible, compte tenu de son profil socio-économique, d'accentuer la fragilité en matière d'occupation sociale de leur résidence à enjeu prioritaire de mixité sociale. Alors, il y a un garde-fou, évidemment, qui a été prévu par le législateur. Dans ce cas, la loi impose de proposer aux ménages le premier logement social vacant adapté à sa situation, situé hors d'une résidence à enjeu prioritaire de mixité sociale et dans le périmètre de la convention intercommunale d'attribution. Sur l'entrée en vigueur, la mesure nécessite 2 décrets en Conseil d'État, qui sont sans doute réunis en un seul. Pour la première partie, il s'agira de déterminer les critères pour établir la liste des résidences en enjeu prioritaire de mixité sociale de la façon la plus objective possible. Et la seconde mesure, ce sera pour déterminer les critères d'identification des ménages susceptibles d'accentuer la fragilité d'une telle résidence sociale.
De quels nouveaux outils disposent les collectivités pour construire leur politique d'attribution ?
Alors, elles en ont déjà plusieurs, et notamment l'accès à l'outil cartographique du GIP SNE. Mais il y a une nouvelle disposition qui est prévue par la loi 3DS et qui concerne les communes et les EPCI. S'agissant des communes et des EPCI, aujourd'hui, seules les communes guichets enregistreurs, donc pour enregistrer la demande de logement social, et les EPCI qui disposent d'une convention intercommunale d'attribution signée, ont accès aux données du système national d'enregistrement de la demande de logement social, le SNE. Cette situation, ce qui a été considéré, constitue un frein aux réflexions que les EPCI et les communes mènent pour l'élaboration des politiques d'attribution à travers, bien évidemment, la connaissance du profil des ménages qui sont enregistrés sur le SNE. Aussi, la loi 3DS ouvre l'accès aux données du SNE aux communes réservataires de logements locatifs sociaux et aux EPCI compétents en matière d'habitat et ayant au moins un QPV sur leur territoire. Alors, un point d'attention, c'est que cette mesure n'est pas d'application immédiate. Elle entre en vigueur après la promulgation de la loi, soit à partir du 21 février 2023.
Alors, la loi 3DS comporte également des dispositions sur les dates butoirs pour la mise en œuvre de la cotation de la demande de logement social et de la gestion en flux des droits de réservation. C'est bien cela ?
Alors, tout d'abord, quelques éléments chiffrés sur ces deux mesures phares de la loi Élan. Au 1er janvier 2022, on relève 15 EPCI qui ont mis en place un système de cotation de la demande de logement social qui est conforme à Élan. Et en parallèle, concernant la gestion en flux, si sur de nombreux territoires, les réservations sont gérées en flux, notamment pour le contingent préfectoral, il reste beaucoup de chemin à faire pour assurer une conversion en flux de l'ensemble des conventions en stock. Alors peut-être, si vous le permettez, quelques mots de rappel sur les grands objectifs de la cotation de la demande et la gestion en flux. La cotation doit être mise en place sur les EPCI de la réforme, soit plus de 400, comme on l'a dit tout à l'heure. La cotation constitue une aide à la décision pour éclairer désignataires et commissions d'attribution. Il ne s'agit bien évidemment pas d'un système automatique d'ordonnancement des demandes conduisant à attribuer mécaniquement les logements aux ménages les mieux cotés. L'humain a toute sa part dans l'appréciation du profil des ménages. Mais elle est aussi une source de transparence qui répond à une aspiration profonde de la société pour éclairer le demandeur sur les priorités locales et puis ses chances d'obtenir un logement social.
Alors, en ce qui concerne les ménages prioritaires, plus précisément ceux relevant du droit au logement opposable, la loi 3DS ajoute une nouvelle catégorie de ménages, DALO.
Alors, juste avant de répondre à votre question, je vais juste finir, si vous le permettez, sur la question précédente, puisque j'ai pas levé le suspense en fait sur les dates de butoir pour l'entrée en vigueur de la cotation, la gestion en flux. Alors la gestion en flux, c'est une formidable mesure de fluidité et de souplesse qui permettra de mieux apparier l'offre et la demande. Alors la loi 3DS, elle prévoit que la date butoir pour les EPCI de la réforme des attributions est reportée au 31 décembre 2023. Et la date butoir pour la mise en conformité des conventions de réservation en flux est reportée au 23 novembre 2023. Alors, il est important de se mobiliser car les échéances se rapprochent et fin 2023, c'est demain. Alors, sur la question de la nouvelle catégorie de ménages DALO, la loi 3DS ajoute un critère pour la reconnaissance du DALO qui est, je cite, parce que les mots sont très importants, c'est pour les personnes handicapées logées dans un logement inadapté à son handicap. Et là, la définition de handicap est très large, puisqu'il s'agit de toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle durable ou définitive, d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitive ou psychique, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Donc c'est vraiment très très large. Alors une doctrine est en cours d'élaboration pour définir le handicap et surtout les pièces justificatives permettant d'attester l'inadaptation du logement au handicap, avec bien évidemment une articulation nécessaire avec les démarches de droit commun, car le DALO, le droit au logement opposable, ne saurait s'y substituer. Alors il y a un enjeu de taille, notamment côté parc social, car il s'agira de reloger les ménages qui ont été reconnus DALO à ce titre dans des logements adaptés. Et donc tout un chantier pour les bailleurs sociaux, notamment de connaître ces logements. Alors le formulaire SERFA de la demande de logement social va évoluer, tout comme la documentation, ainsi que les systèmes d'information. Alors une concertation est en cours, d'abord avec les associations de représentants des personnes handicapées.
Je me suis laissé dire que la loi comporte également des dispositions sur les commissions d'attribution.
Alors, la crise sanitaire a conduit les commissions d'attribution à développer le recours aux réunions dématérialisées, après une période de temporisation de 2 mois, hein, pendant le premier confinement, pour permettre tout simplement d'attribuer des logements sociaux. Alors avant la loi 3DS, les commissions d'attribution pouvaient se réunir sous le format dématérialisé, à la condition que cette modalité soit inscrite dans leur règlement intérieur approuvé par le préfet de département. La loi 3DS simplifie tout ça et supprime l'obligation d'approbation du règlement intérieur par le préfet. Alors, bien évidemment, les règles de droit commun en matière de concomitance du vote, d'accès sécurisé aux données, de confidentialité des échanges et du respect de la vie privée, le RGPD, s'appliquent. Et ces dispositions sont d'application immédiate. Alors, les habitudes sont en quelque sorte bouleversées, même si maintenant la réunion des commissions dématérialisées est inscrite dans le paysage, les pratiques hétérogènes, et nous avons beaucoup de questions sur ce sujet, donc je voulais signaler qu'un groupe de travail animé par la DHUP et réunissant 11 services déconcentrés a pour objectif d'identifier avec l'Union sociale de l'habitat, l'USH, les bonnes pratiques et les modalités de réunion des commissions dématérialisées. Enfin, une deuxième disposition et dernière disposition sur les commissions d'attribution. La commission d'attribution dispose désormais d'un bilan sur les relogements effectués en cas de démolition de droits communs d'un ensemble ou d'une partie de logements sociaux, ou de vente, de changement d'usage, de démolition dans le cadre d'un projet de renouvellement urbain porté par l'Agence nationale du renouvellement urbain, l'ANRU. La commission est ainsi informée par le bailleur des éléments détaillant la situation familiale et financière des ménages occupants ainsi que de l'offre de relogement acceptée. Il s'agit d'une information que le bailleur délivre à la suite de la commission d'attribution ayant attribué le logement. Un dernier point important qu'il convient de rappeler, c'est que, indépendamment de cette nouvelle disposition, toute attribution, notamment celle au bénéfice d'un ménage à reloger dans le cadre d'un programme de l'ANRU, doit faire l'objet d'un examen préalable en commission d'attribution et d'une décision d'attribution, le dépassement des plafonds de ressources pour l'accès au logement social étant un motif de refus d'attribution.
Merci pour toutes ces explications, François-Xavier Chopin. Je rappelle que vous êtes chef du bureau de la réglementation des attributions des logements sociaux et du suivi du droit au logement opposable. Est-ce qu'on peut aller vers un petit mot de conclusion à l'issue de ces échanges, avant de passer aux questions des auditeurs, bien sûr?
Alors, on voit toute la prégnance des questions autour de la mixité sociale. La loi 3DS vise à pallier aux situations dans lesquelles les acteurs locaux n'ont pas investi ou pas encore suffisamment investi le sujet, en plaçant l'EPCI comme l'autorité de premier rang capable de dépasser le manque de mobilisation ou d'accord local. Mais cette politique des attributions ne peut cependant pas être déconnectée des autres pans de la politique du logement social, sans les citer tous, j'en cite quelques-uns, la production, dont le rattrapage avec la loi SRU, et bien évidemment la rénovation urbaine pour la mixité sociale et fonctionnelle à travers la requalification de ces quartiers. J'ai un dernier mot pour signaler la présence de ressources disponibles, puisque nous avons un site extranet dédié aux attributions et qui est ouvert à tous les acteurs du logement locatif social et qui sera profondément remanié à la rentrée. Il comporte les textes, bien évidemment, des foires aux questions, des documents de communication et pédagogique, et surtout, parce que c'est un point très important pour nous, il a vocation à être alimenté par des documents réalisés par les pairs, c'est-à-dire importés à connaissance sur le plan partenarial de la gestion de la demande et d'information du demandeur, ce fameux PPGDID, qui aura été élaboré aussi par le PCI, des conventions intercommunales d'attribution et des conventions de réservation en flux. Alors pour plus de renseignements, les services déconcentrés pourront communiquer l'adresse et les codes pour se connecter sur cet extranet.
Merci beaucoup pour ces explications. Vous restez avec nous et puis on va maintenant répondre aux questions des auditeurs.
Le MAC de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement, on répond à vos questions.
Et on répond à vos questions avec vous, Michel Félep. Je rappelle, vous êtes chef de la mission Mobilisation des territoires à la DGALN. Alors, vous avez réuni les interrogations posées dans le chat de l'émission. Pouvez-vous les partager avec nous, s'il vous plaît?
Alors Fabienne, on a une première question de Sylvie qui nous pose une question au sujet des projets ANRU, l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. On sait que le relogement des ménages concernés par un projet ANRU en dehors des QPV contribue à l'atteinte des objectifs de mixité sociale. Et la loi 3DS prévoit-elle de nouveaux outils pour favoriser la mixité sociale et fonctionnelle justement pour ces relogements ?
Alors, oui, effectivement, la loi 3DS, j'en ai pas parlé, prévoit de nouveaux outils. Alors, le droit en matière de droit au maintien dans les lieux avant l'adoption de la loi 3DS pouvait constituer un frein pour les opérations de diversification fonctionnelle en quartier NPNRU. Donc la loi 3DS complète les leviers mobilisables pour favoriser la mixité sociale dans les quartiers concernés par une convention pluriannuelle de renouvellement urbain signée. Donc, il sera désormais possible de vendre des logements sociaux ou de changer d'usage pour faire de l'activité économique ou diversifier le statut résidentiel de tout ou partie d'immeubles de logements sociaux qui devront par contre précisément être mentionnés dans la convention de renouvellement urbain. Alors bien évidemment, l'accord du maire de la commune d'implantation devra être requis, ainsi que l'accord évidemment des personnalités morales qui ont accordé la garantie des prêts. Mais en fait, l'inscription de cette opération de diversification sur les quartiers ANRU dans la convention pluriannuelle de renouvellement urbain vaudra autorisation pour ce changement notamment d'usage. Et alors, un dernier point, c'est que le droit aussi du maintien dans les lieux évolue, puisque pour ces opérations de démolition, le locataire qui aura refusé 3 offres de relogement qui doivent être adaptées, bien évidemment par rapport à ses besoins, ne bénéficiera plus du droit au maintien dans les lieux après 3 offres de relogement adaptées.
D'accord, merci. Alors on a une deuxième question de Julie qui demande s'il existe un outil pour repérer les travailleurs essentiels, puisque vous en avez parlé tout à l'heure. Est-ce qu'il existe quelque chose ? Comment repère-t-on les travailleurs essentiels ?
Alors voici la façon dont nous envisageons les choses. Alors tout d'abord, peut-être un peu pour rappeler un peu ce que je disais, c'est qu'à la base, les réflexions s'étaient orientées vers une définition rigide donnée par le niveau national. Nous avons souhaité donner plus de souplesse et de latitude aux acteurs locaux pour qu'ils puissent définir, compte tenu véritablement des besoins de territoire, les ménages qui doivent être qualifiés de travailleurs essentiels. Par exemple, un EPCI qui aura une centrale nucléaire implantée sur son territoire, eh bien des personnes qui sont chargées de la maintenance et du fonctionnement et de maintien en condition opérationnelle de cette centrale nucléaire pourront évidemment être qualifiées de travailleurs essentiels. Mais c'est pas à nous, l'État central, de le définir. Alors une fois que j'ai dit ça, comment on outille les acteurs ? Alors nous ferons une communication pour donner la liste des catégories qui avaient été envisagées et définies par l'INSEE et par le ministère du Travail, la DARES. C'était une liste qui avait été définie en fonction du degré d'exposition des travailleurs par rapport au public pendant la crise sanitaire et parce qu'en fait, en gros, ils devaient aussi travailler avec des collègues sur leur lieu de travail. Donc on donnera ça, mais à titre vraiment d'illustration et d'indication. Pour les repérer, parce que c'était le sens précis de la question, eh bien, il faudra faire évoluer le formulaire CERFA de la demande de logement social pour permettre de rétablir une rubrique qui avait été supprimée avec le formulaire V4 pour les initiés et rétablir la rubrique profession.
Ok, donc on a une autre question de Cordy qui demande si un EPCI dépasse le délai de la mise en place de la réforme des attributions, est-ce qu'il y aura des pénalités ?
Alors non, il n'y a pas de pénalité de prévu. C'est des choses qui avaient été évoquées dans le cadre des travaux parlementaires. Mais plutôt que d'aller sur le champ des pénalités, la volonté du gouvernement, c'est plutôt d'aller sur la pédagogie et vraiment créer les conditions pour que l'ensemble des acteurs locaux puissent discuter entre eux avec simplement une mesure couperet, c'est que s'il n'y a pas de convention intercommunale d'attribution au 22 février prochain pour les EPCI, les objectifs devront être notifiés. Il n'y a pas de sanction.
Une autre question de Alain sur la gestion en stock. Il nous demande donc si la loi 3DS apporte une nouvelle catégorie de logements qui demeurent gérés en stock.
Oui, alors, sont désormais exclus de la gestion au flux, au même titre que les logements réservés par des services relevant de la défense nationale et de la sécurité intérieure. C'est ce qui était inscrit dans l'article L441-1 du CCH à l'occasion de la loi Elan, il y a une nouvelle catégorie, ça va être les logements réservés par des établissements publics de santé. Et donc pour l'ensemble de ces logements, ce sont les seules exceptions à une gestion en flux, puisqu'ils resteront gérés en stock. Ça veut dire qu'en fait, en gros, le lien entre le réservataire financeur et le logement n'est pas coupé, et le lien est toujours maintenu.
Donc on a une question de Nabil qui est assez longue, je vais vous la lire, elle fait un récapitulatif. Bonjour, les EPCI auront 8 mois pour signer une convention intercommunale d'attribution, la CIA, à compter de la promulgation de la loi 3DS. Cette CIA fixe des objectifs d'attribution de logements sociaux pour les ménages modestes en dehors des QPV pour conforter la mixité sociale. En l'absence de conclusion de la convention, il reviendra à l'EPCI la responsabilité de fixer à chaque bailleur les objectifs correspondants. À défaut, chaque bailleur se verra assigner par la loi l'objectif d'attribuer au moins 25% de logements sociaux en dehors des QPV aux 25% des ménages les plus modestes. Donc c'est un récapitulatif de ce qui a été
dit. Exact.
Et voilà la question. Quid des objectifs de relogement des prioritaires ?
Alors, les objectifs de relogement des publics prioritaires ne font pas partie de l'assiette des objectifs qui sont notifiés par les EPCI aux bailleurs sociaux. Demeurent en revanche les dispositions qui préexistent depuis plusieurs années, c'est-à-dire que quand le préfet constate qu'un réservataire, un grand réservataire n'atteint pas ses objectifs, eh bien, il a le pouvoir et la compétence liée pour se substituer et attribuer en lieu des places du réservataire les attributions au bénéfice des ménages défavorisés.
Et peut-être une dernière question de Julie. Enfin, c'est deux questions sur le CERFA. Pour quand est prévue l'évolution du CERFA pour le repérage des professions ? Et est-ce que l'ajout du numéro de SIRET de l'employeur est prévu ?
Alors, vous savez, quand on touche un formulaire CERFA, on réinterroge et on chamboule toute la chaîne en fait, des attributions, puisque c'est des informations qui doivent être codées dans le système national d'enregistrement de la demande de logement social, donc ça suppose des développements. Et nous savons tous que le SNE a une feuille de route assez chargée en matière de volume et d'intensité de développement à réaliser. Mais il n'y a pas que les développements sur le SNE. Il y a aussi les systèmes d'information privatifs aussi, des bailleurs sociaux qui doivent évoluer. Et donc tout ceci demande du temps et des développements. Donc on va prendre le temps de le faire, et puis on en profitera aussi pour ajouter la nouvelle catégorie de public prioritaire qui sont les mineurs émancipés ou jeunes majeurs en fait, qui étaient à l'ASE, à l'aide sociale à l'enfance. Et donc voilà, on va en profiter pour faire cette évolution. Donc j'imagine que ça interviendra à partir de l'automne prochain. Et la deuxième question...
Numéro de SIRET, le numéro de SIRET,
oui,
de l'employeur.
Alors c'était une demande assez forte pour des raisons tout à fait légitimes et compréhensibles de la part d'Action Logement pour repérer les ménages qui sont des salariés des entreprises cotisantes, et c'est aujourd'hui possible.
Ok.
Merci beaucoup François-Xavier Chopin, vous avez réponse à tout et c'est tant mieux. Et merci à vous Michel Phélep d'avoir répondu aux questions des auditeurs. Je rappelle que vous êtes chef de la mission mobilisation des territoires à la DGAL, la direction chargée de l'habitat, de l'urbanisme, des ministères en charge de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Et je rappelle que toutes ces émissions sont disponibles sur le site de Radio Territoria en podcast, sur notre appli, sur tous vos agrégateurs de podcasts habituels. Et on se retrouve très vite pour un nouveau numéro du MAG de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement. Merci à vous.
Le MAG de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement, une émission en partenariat avec les ministères de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à réécouter et télécharger sur Radio Territoria et sur toutes les plateformes d'écoute habituelles.